La technologie la plus efficace reste encore la vie.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Benjamin Dardemar. Salut Benjamin.
Salut Brieux.
Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter un petit peu ton parcours?
Ah, mon parcours, écoute, si je devais remonter tout début, je parlerais du scoutisme, de l'engagement pour les autres, du respect de la nature, de l'esprit d'équipe. Et puis j'ai voulu trouver d'abord des engagements à la Croix-Rouge, où je me suis occupé des maraudes. Je m'occupais des personnes, d'aller rencontrer des personnes sans abri et aussi du secourisme.
Ça, c'était déjà à Paris, en fait.
Ça, c'était déjà à Paris. C'était pendant mes études de droit. Et je comptais en faire mon job. J'avais tous les diplômes et la Croix-Rouge internationale allait sur les lieux de conflit, allait essayer d'aider des personnes victimes de guerre. Ça me parlait beaucoup. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise, des syndicalistes, qui m'ont montré ce qu'on pouvait faire dans l'entreprise pour réduire la pauvreté et l'exclusion. Et après une expérience professionnelle chez Schneider Electric, j'ai, comme tout le monde, vu la crise économique en 2008 et la nécessité de tester d'autres modèles au niveau politique, économique, sociaux, environnementaux. Et du coup, j'ai décidé de démissionner pour créer... À l'époque, je parlais d'entreprise sans but lucratif. L'idée, c'était c'était en fait de viser les objectifs d'une association, donc réduire la pauvreté, protéger l'environnement, mais avec des méthodes de l'entreprise, et non pas par idéologie, mais l'objectif, c'était de ne pas dépendre de financement public, de subventions, mais d'essayer de trouver une autonomie. Et j'avais été très marqué par les entreprises d'insertion montées par des éducateurs spécialisés. Et j'ai voulu monter ça, et avec, alors j'aurais pu continuer sur l'énergie, sur la santé, sur l'exclusion, et je me suis dit que la priorité de notre temps, c'était de protéger l'environnement pour protéger l'humain. En fait, c'était de, à l'époque, en 2009, je disais réduire la pauvreté par l'environnement. Et donc je suis allé en Afrique, où je pense que c'était plus urgent qu'ailleurs, de monter des projets de reforestation solidaire. Ouais. Et j'ai galéré pendant 3 ans avant de monter le premier projet, parce que le petit gamin de 28 ans qui veut changer de modèle économique, qui n'avait pas eu d'expérience significative... Voilà, ça
a mis en plus, dans un pays, j'imagine, complètement différent.
Dans des pays compliqués, mais c'est aussi des pays par exemple, le premier contrat, ça a été au Congo-Brazzaville. Mm-hmm. Et c'est aussi au Congo-Brazzaville que les premières personnes m'ont fait confiance.
D'accord.
Voilà. Ils étaient moins regardants des études que j'avais faites ou des gens que je connaissais.
Ouais.
Ce qui est un petit peu un problème quand on entreprend ailleurs. Voilà, donc c'était la période, on va dire, l'aventure, mais qui s'est bien terminée, on va dire, puisque ça a commencé. On a fait des chantiers de reforestation qui employaient des personnes avec un meilleur niveau de revenu que le niveau de revenu habituel dans ces pays. Et puis, on a planté vraiment des forêts. C'était une première réussite. Et puis après...
Ça, juste pour bien préciser, c'est la première véritable aventure de Planétique.
Planétique, du coup, ça, on a... Alors, via le WWF en France, j'ai été mis en relation avec un expert forestier congolais qui s'appelle Adolphe Nkwasa. Mmh. Et on a monté Planétique Congo en 2010. Et encore une fois, une très belle aventure humaine. Des très beaux projets sur le terrain, mais dans un pays un peu qui a eu quelques complications au niveau politique. Et du coup, les choses se sont arrêtées là-bas en 2015. Et entre-temps, on a monté avec une amie, une société qui fait des massages en entreprise par des personnes malvoyantes, mmh. qui s'appelle Alter Massage, qui est devenue une filiale de Planitic en 2014. Une entreprise solidaire qui marche très bien, qui n'a jamais eu de subvention, qui vit en fait des prestations de bien-être, massage, ateliers, conférences qu'on fait dans les entreprises en France. Il y a une vraie demande, on réduit le stress au travail et du coup ça paye les salaires de personnes qui ont un handicap, mais qui malgré leur handicap arrivent à être des praticiens de massage, des commerciaux. Et donc il y a une vraie progression dans l'emploi et puis aujourd'hui il y a 7 salariés, ça marche très bien. On va continuer à recruter et à montrer que tu peux être malvoyant, avoir un job, qui en l'occurrence faire des massages, passer commercial. Et là, la première salariée, elle va devenir associée gérante d'une filiale en province. Et on peut être chef d'entreprise en étant en situation de handicap.
Oui, bien sûr.
Et ça demande des adaptations de poste, des adaptations de business model, mais c'est faisable. Et donc, ça donne la pêche à l'équipe actuelle et puis à ceux qui se disent, mon enfant, il a peut-être un problème, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin de la carrière professionnelle. Les jeunes qui sont dans notre incubateur et qui voient Altermassage cartonner au niveau professionnel, ça leur met une belle baffe,
ouais.
Disant au lieu de te plaindre sur les difficultés à monter ton entreprise, même ton entreprise solidaire, regarde, eux ils y arrivent bien. Donc ça donne la pêche à pas mal de gens autour d'eux. Et ça, c'est le plus gros impact qu'on peut avoir, c'est montrer que c'est possible.
Ouais, tout à fait.
Ça, c'est la boîte qu'on a montée en 2014. En même temps, on a monté au Palais Brognard, donc l'ancienne bourse de Paris, le Planitic Lab, qui était d'abord un coworking et qu'on transforme en incubateur. Donc maintenant, en fait, on va essayer de faire ce qu'on cherchait il y a 9 ans, c'est-à-dire d'être aidé au tout démarrage. C'est-à-dire qu'on va aider gratuitement des entrepreneurs, en ce moment essentiellement des femmes, mais ça, c'est plus le hasard, qui veulent monter une entreprise d'impact social ou environnemental. Et qui a tout démarrage. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de POC, de business model, de MVP, enfin tous les jargons de la start-up. On va leur dire, est-ce que tu es quelqu'un de sérieux, de compétent? Et nous, on va te faire confiance, on va être les premiers à te faire confiance. Alors, on va d'abord t'offrir des bureaux, du coaching, de l'accompagnement, des formations, et on va essayer de leur trouver des investisseurs, des financeurs, on va essayer de vraiment de ce qu'on aurait rêvé d'avoir il y a 9 ans.
Mais j'aurais rêvé d'avoir ça aussi.
On aurait tous aimé, en fait. Après, c'est pas une critique des autres, de ce que font les autres. Vraiment, c'est vraiment pas l'état d'esprit de la maison. C'est vraiment de dire, le rêve pour nous, ça aurait été ça.
Et donc, ouais, justement, là, tu as évoqué donc, la première expérience au Congo, puis Altermassage, puis l'incubateur. Mais finalement, Planetic, il y a encore aussi d'autres entités qu'on n'a pas forcément évoquées.
Alors, on a lancé, après, on s'est dit, on va continuer à lancer de nouveaux projets. Donc, on a un projet de lampe solaire. Qu'on va essayer d'éco-concevoir. Alors, elle n'est pas éco-conçue aujourd'hui, mais on voudrait se rapprocher de cette démarche en disant que quand on distribue des lampes solaires en Afrique, certes, on peut régler une partie du problème qui est l'accès à l'électricité. Mais si c'est pour faire une lampe qui ne tient pas la route, qui n'est pas solide, qui est plein de plastique, finalement, c'est une grosse source de pollution. Donc, aider les pauvres, ce n'est pas une excuse pour tous les autres dimensions que sont l'écologie, la santé et tout ça. Donc on s'est dit, quelle serait la façon de faire une lampe qui a le meilleur impact. Et donc, on a réfléchi, utiliser des matériaux naturels, type... Alors d'abord, on a fait le bambou, puis après, on est allé sur le liège. On réfléchit encore, on a vu tous les types de batteries, est-ce qu'une batterie est une bonne solution? Donc on essaye de trouver la meilleure façon de le faire, et une fois que ce sera fait, de lancer une boîte là-dessus. Mm-hmm. On a d'autres projets, Biota, faire ce qu'on faisait au Congo, mais en France, des services environnementaux, faits par des agriculteurs.
D'accord.
Et une autre plateforme d'entraide scolaire. Donc ça, c'est comme Planetic, créer des entreprises de zéro qui deviennent des filiales, ça, c'est des projets en cours. Ils ne sont pas encore immatriculés. Voilà. Et on voulait, en 2016, lever des fonds pour financer cette activité de création d'entreprise. Et on s'est aperçu qu'il fallait avoir plus de reconnaissance institutionnelle. Donc on a obtenu l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale directe de la préfecture de Paris en 2017 et le label FinanSol de la finance solidaire en 2017 aussi. Ça, c'était la reconnaissance public et la reconnaissance parmi les professionnels de la finance solidaire. Ça, c'était une vraie étape. Et alors après, on s'est dit, bah, c'est bon. Du coup, il faut investir. Ah non. Là, vu ce que vous cherchez, il faut une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. On va dire, OK. Alors, on est allé voir des sociétés de gestion de portefeuille agréées déjà par l'autorité des marchés financiers pour leur dire, bah, bossons ensemble. Voilà. Donc, comme on n'a pas eu vraiment de réponse, on a monté la nôtre. Je me suis associé à un chef d'entreprise qui a cru au projet. Donc, on a levé des fonds pour créer Planetic Asset Management en mars. Asset Management, ça fait tout de suite anglo-saxon, ça fait vachement crédible. Et l'idée, c'est pareil, on s'est reposé la question du démarrage de Planetic, dans quel, quitte à créer un fonds d'investissement solidaire, dans quel secteur le lancer ?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on va sur le handicap, sur l'insertion, sur un fonds généraliste ?
Est-ce que vous restez en France
ou est-ce qu'on reste en France ou en Afrique, on retourne en Afrique et ça ? Bon, là, pour le coup, la réponse est plus facile, donc en France. Et puis, on s'est dit, mais l'urgence de notre temps, c'est toujours l'écologie, parce que les problèmes écologiques vont d'abord faire souffrir les plus faibles. Et donc, c'est pas dire que forcément un arbre, c'est magnifique, qu'on adore tous les types d'oiseaux, tous les types d'insectes. C'est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est pour réduire la pauvreté, il faut regarder la situation. La plupart des pauvres sont en situation de malnutrition. À peu près la moitié des personnes sur Terre travaillent dans l'agriculture. Donc si on veut réduire la pauvreté et protéger l'emploi, et notamment dans l'emploi dans les pays pauvres, développer l'emploi, ben, en gros, il faut aller dans l'agriculture. Pour améliorer l'agriculture les pays pauvres, il faut aussi que l'agriculture dans les pays riches soit plus efficiente pour éviter qu'il y ait des concurrences déloyales internationales. Enfin, ça sera assez long de rentrer dans les détails, mais il faut commencer par montrer que d'autres façons de faire de l'agriculture sont possibles. Et donc pour nous, on commence à le faire en France. On va lancer donc un projet pour investir en France dans l'agriculture, l'agroécologie. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui va avoir un meilleur impact au niveau climat, parce qu'elle va déjà plus stocker de carbone dans les sols, elle va plus protéger la biodiversité. Mmh. Du coup, elle va permettre de mieux nourrir les humains sans réduire nos ressources naturelles, et au contraire en les augmentant, en créant des emplois non délocalisables. Qui auront un meilleur impact. Et donc, une fois qu'on aura prouvé que ce modèle existant marche bien en France, là, on pourra revenir l'exporter dans d'autres pays. Et d'ailleurs, certains pays ne nous ont pas attendus. Certains pays sont avancés aussi sur l'agroécologie. Mais il faut bien le montrer, c'est une solution qui peut être utile au niveau international. Des études scientifiques, il y a une initiative qui s'appelle 4 pour 1000, qui prouve que si on augmentait de 4 pour 1000... le stock de carbone dans les sols, donc on les augmentait de 0,4%, en fait, 4 pour 1000, eh bien, ça pourrait suffire à réduire le changement climatique. C'est-à-dire que c'est très bien de travailler sur l'efficacité énergétique, c'est nécessaire, sur les transports, c'est nécessaire, tout ça, c'est très nécessaire, mais l'agriculture est la principale solution, la meilleure solution pour s'adapter et réduire le changement climatique. Et en plus, ça réduit la pauvreté, et en plus, ça protège les emplois, et en plus, notre alimentation sera meilleure. Donc, on n'a plus besoin de choisir, en fait. La même solution a un impact économique, social, environnemental. Donc, normalement, ça devrait pouvoir avoir un consensus scientifique, technique, économique et politique. Et c'est pour ça que nous, Planetic, on met toute notre énergie sur ce sujet.
Et comment, finalement, tu en es venu à te dire, ben voilà, c'est ce modèle-là de financement qui peut faire avancer les choses. Enfin, évidemment, il y a un manque aujourd'hui, mais comment t'en es venu à dire, bah voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse ?
Alors déjà, en discutant avec les premiers concernés, qui sont les agriculteurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est censé être bon dans l'entrepreneuriat social, c'est de partir d'un problème. C'est pas ici, au centre de Paris, on s'est dit que voilà, les agriculteurs avaient besoin de cette solution.
C'est sûr.
C'est très prétentieux, c'est pas l'esprit de la maison. On a bien vu qu'il manquait en fait de structuration des filières agricoles. En fait, si on peut remonter un petit peu dans l'histoire, dans l'économie, l'entrepreneur avant était mis au cœur du projet et il pouvait à la fois aller sur l'amont et l'aval. Donc si tu prends l'agriculture, tu allais sur la production, la transformation et la distribution. Tu avais ton sujet. Le capitalisme financier a rompu cet équilibre en disant ce n'est plus à l'entrepreneur de diversifier son activité, mais c'est au financier de diversifier son risque. Et ça, c'est l'état actuel de la finance. C'est assez récent, c'est pas très ancien. Je suis pas un spécialiste, mais c'est peut-être 30 ans.
D'accord.
Et en gros, du coup, c'est à l'investisseur d'investir de son côté dans la production, à un autre investisseur ou le même investisseur via un autre fonds dans la transformation puis la distribution. Ce qui fait que sur le terrain, il n'y a plus ces synergies de filières ou pas autant ou pas assez efficaces. Et en plus, ça casse ces filières, mais en plus, ça le casse dans les filières qui sont peut-être les moins rentables, et moins rentables parce qu'elles sont plus sociales et plus environnementales. Donc c'est bien quand on veut retrouver des filières à fort impact économique, social et environnemental, il faut se libérer de cette logique financière où c'est le financier qui diversifie son risque. C'est à l'entrepreneur de redevenir au cœur du système. En l'occurrence, dans l'agriculture, l'entrepreneur, c'est l'agriculteur, l'exploitant agricole, qui doit pouvoir, s'il le souhaite, être impliqué dans la production, dans la transformation et dans la distribution. Et nous, ce que l'on souhaite faire, c'est investir à ces trois étapes de la filière avec un cahier des charges social. Dès qu'on peut employer des personnes en situation de handicap, d'insertion, on le fait. Et environnemental, on va veiller à ce que les sols soient protégés, que la biodiversité soit non seulement protégée, mais qu'elle augmente,
Régénérer, quoi, tout à fait.
et que tous les systèmes soient durables. Et pour le faire, il faut lui-même que le fonds d'investissement ait une longue durée de vie. Donc sur la partie foncière, on aura 99 ans de durée de vie, c'est pas mal. Sur la partie transformation-distribution, on a 15 ans, c'est le minimum, on va dire, pour avoir un impact durable et c'est le maximum qu'on puisse faire en termes de... Pour structurer des fonds d'investissement, c'est difficile d'expliquer que ça va durer plus que 15 ans. Donc on met en place tout ce système. Proposer une solution de financement de l'agroécologie. Alors certainement pas tout seul, c'est avec tous les partenaires, avec ceux qui font de la dette, qui prêtent aux agriculteurs, aux sociétés de transformation, avec ceux qui accompagnent au niveau technique, avec les chambres d'agriculture, avec toutes les associations citoyennes. On n'est pas, on va pas tout, tout arranger tout seul. On a une très très grande logique partenariale. On essaie de rencontrer le maximum de gens en tendant la main et en disant on a tous besoin les uns des autres. C'est plus ou moins bien reçu. Notamment dans l'agriculture conventionnelle, quand on leur parle de bio ou d'environnement, de biodiversité, certains sont un peu méfiants. Ils disent, ils voient ça comme une agression des Parisiens, en disant voilà, ils vont nous expliquer comment on va faire. Et donc ça peut être mal perçu. En revanche, le fait que nous, Planétique, on est dans l'économie sociale et solidaire, que on est Planétique Asset Management est la seule société de gestion qui va demander l'agrément. Elle l'a pas encore. Mais avec des statuts de l'économie sociale et solidaire que nous allons monter, des fonds d'investissement qui vont chercher l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, label FinanSol, et qu'une fois qu'on aura ces fonds, on investira dans des sociétés elles-mêmes de l'économie sociale et solidaire, ça rassure les acteurs de terrain en disant ils ne viennent pas spéculer sur le dos des agriculteurs ou sur le dos des acteurs de terrain. Bien au contraire. On vient les remettre au cœur du projet, puisque le principal impact social, ça sera que l'agriculteur soit payé un meilleur prix. Puisqu'on aura un impact de filière, on pourra mieux négocier et rendre les circuits plus efficaces. Voilà, et donc faire en sorte qu'on puisse mieux payer l'agriculteur pour ce qu'il aura produit.
Oui, tout à fait.
Et ça permet de mieux convaincre les acteurs de terrain. Donc on vient pas, voilà, on vient pas en disant on a trouvé la solution, écartez-vous. C'est venons construire ensemble avec ce qui est des charges sociales et environnementales. Et tout est lié parce que encore une fois, si on n'améliore pas la prise en charge des questions environnementales, les agriculteurs seront les premières victimes. De toute façon, c'est assez mal fait. En fait, c'est toujours ceux qui sont pas responsables qui sont les premières victimes. Donc on va essayer d'investir pour éviter ça ou en tout cas le réduire.
Mais en plus, malheureusement, c'est déjà le cas. On parle notamment des impacts sanitaires, etc.
Tout à fait.
Enfin, Et pour en venir sur justement à Planétique Asset Management, est-ce qu'il y a un type d'investisseur sur lequel vous appuyez ou il n'y a pas forcément de type d'investisseur ?
Alors, pour l'instant, on ne peut appeler personne puisqu'on n'a pas encore obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Mais on va solliciter plutôt des investisseurs professionnels, institutionnels, certains ont des objectifs d'investissement dans des projets d'intérêt général. Donc on va, en fait, ce qu'il faut leur dire à ce stade, c'est leur dire que l'agroécologie est une bonne solution pour l'investissement solidaire, pour l'investissement d'impact, pour l'investissement environnemental. Il faut le mettre au cœur de leur agenda. Il y a une prise de conscience en ce moment, notamment des citoyens, il faut que ça remonte.
Tout à fait.
Voilà. Donc si on arrive à les convaincre que l'agroécologie est une bonne solution, ils pourront investir dans des fonds d'agroécologie et peut-être regarder le nôtre. Plus tard, si les choses se sont bien passées, on pourra peut-être inviter d'autres à rejoindre, mais c'est une fois qu'on aura obtenu tous les agréments qui permettent de faire appel public à l'épargne ou autre. Pour l'instant, on ne les a pas.
D'accord. Et donc, mis à part ce cahier des charges qui va être assez global, finalement, pour les acteurs sur le terrain, après, on est sur un fonctionnement de fonds d'investissement classique ou est-ce qu'il y a aussi des particularités sur cet aspect ?
Alors, il y a une première particularité, c'est le temps long. Alors, pour la partie foncière, 99 ans, c'est vraiment très long. Pour la partie... commercial, c'est 15 ans, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de trouver les meilleurs projets et de les accompagner. Et dans la façon dont on va les accompagner, on ne va pas simplement investir de l'argent, on va investir des fonctions support juridiques, commerciales, des fonctions support type la communication, enfin toutes les comptabilités. Pour les aider dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il a trois métiers, et il doit produire, il doit vendre, il doit gérer. Là, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner, notamment sur la partie vente et gestion. C'est très, très important parce que vous soyez en train de fabriquer des lampes solaires, une société de service ou un agriculteur, vous avez plus à cœur de travailler sur la production de votre produit ou de votre service que sur la gestion de la commercialisation. Mais si vous ne les faites pas, bah vous n'allez pas le faire longtemps.
Surtout qu'il y a un aspect qui est quand même peut-être pas forcément beaucoup évoqué jusqu'à présent, mais dans l'agroforesterie, finalement, il n'y a pas qu'une seule source de revenus, comme un peu dans l'agriculture classique, monoculturelle, on va dire. Il y a peut-être aussi beaucoup plus de sources de revenus potentielles pour l'agriculteur, justement.
Oui, alors ça, c'est le modèle que l'on veut développer avec Biota, c'est de dire que on a trop stigmatisé les agriculteurs en disant qu'ils étaient des pollueurs ou qu'ils cassaient les paysages, alors qu'au contraire, ils peuvent réduire la pollution globale et ils peuvent retravailler les paysages et les écosystèmes pour que ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire la dépollution de l'air, la dépollution de l'eau, la protection et la régénération de la biodiversité, ben ça, les agriculteurs, si on leur donne les moyens, ils ont toutes les compétences et la légitimité pour le faire. Et là où, en plus, c'est dans leur intérêt, c'est que ben, des récoltes, ça peut plus ou moins... Ça peut être variable, hein, on peut avoir une bonne récolte. Tandis qu'on peut se mettre d'accord sur le prix de la dépollution d'un cours d'eau. Donc ça serait un revenu qui, lui, peut être annualisé, prévisible, et du coup donner une sécurité économique à l'agriculteur, qui du coup peut prendre le risque d'avoir une production alimentaire plus variable, et notamment d'utiliser moins d'intrants chimiques, parce qu'il va pouvoir, garantir ses revenus par les services environnementaux. Et en plus, la partie culturelle, paysagère, quand on va à la campagne ou quand on vit à la campagne, ben, avoir un beau paysage, ben, c'est génial. Ça fait partie de cette économie de la culture, au sens très très large, qui a une valeur fondamentale aussi à nos yeux. Donc on veut vraiment aider les agriculteurs à travailler sur ces trois domaines.
Et de façon un petit peu plus pratique, tout ce qui est aussi tout simplement revente d'arbres, ça fait partie des revenus potentiels que vous intégrez ou c'est
de la revente d'arbres
avec tout, on imagine planter des arbres.
Ah oui, alors.
L'agroforesterie, donc alors, est-ce que ça, c'est des revenus sur lesquels vous pouvez vous appuyer ou c'est presque anecdotique étant donné que il n'y en aura peut-être pas tant que ça.
Non, alors il y en aura tout à fait. Quand on, par exemple, dans l'agroforesterie, on va utiliser les haies qui avaient été détruites, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Là, on y revient. Alors forcément, ça peut produire un petit peu de bois au bout d'un certain temps. Ça peut être des arbres fruitiers, donc les fruits. En tout cas, ça produit tout de suite de l'ombre. Et si vous mettez des légumineuses, ça enrichit le sol en azote. Donc ça a déjà un impact. Mais oui, il peut avoir des revenus complémentaires comme cela. Encore une fois, si une ferme vertueuse peut aussi vendre de l'écotourisme, il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, nous, les Français, on est quand même tous descendants d'agriculteurs à une, deux, trois générations près. Donc on a quand même un rapport très positif à l'agriculture, et pour certains qui ont perdu un petit peu ce lien parce qu'ils sont devenus urbains récemment, et bien retourner à la ferme pour les enfants, c'est génial. Et donc que l'agriculteur puisse un peu vendre ça aussi, de la découverte et des produits du terroir, alors là c'est génial. Et c'est si on améliore la vision de l'agriculteur, ouais, c'est sûr qu'il va augmenter ses revenus. Enfin, voilà, quand on dise aux jeunes d'aller visiter les fermes, d'aller limite travailler un peu, c'est sympa, de savoir planter un arbre, transplanter un arbre, de savoir nettoyer un cours d'eau. Alors, je parlais du scoutisme au tout début, j'avais appris ça quand j'étais plus jeune, mais pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est vraiment... ça fait un bien fou, et puis c'est prouvé scientifiquement que le rapport à la nature, ça apaise. Et dans nos sociétés ultra stressées, d'être dans une forêt, d'être auprès d'animaux, de toucher un cheval, c'est génial. Enfin, ça règle beaucoup de... Même de on parle des chevaux, l'équithérapie et d'autres. De mettre des gens en fragilité dans la nature, c'est génial. Mais il n'y a pas besoin d'attendre d'être en fragilité pour y aller. Ouais. Donc tout ça va augmenter les revenus aussi de l'agriculture. Alors, peut-être pas l'année prochaine, mais de plus. Ça existe déjà un peu. Il faut l'augmenter.
Ouais, c'est surtout qu'on ne peut pas faire beaucoup d'écotourisme dans la plupart des fermes françaises aujourd'hui.
Il faut augmenter ça. Non, mais c'est... je rêve aussi de ce moment où on dira, au lieu d'aller sur les plages à l'autre bout du monde, on ira aussi voir des agriculteurs qui nous apprendront énormément de choses et qui nous apprendront... réapprendront les bases de la vie, du lien au monde animal et au monde végétal qui nous nourrit, qui nous abrite, qui filtre l'air que nous respirons. Enfin, on va pas refaire un cours de biologie, mais si les plantes elles transforment pas le CO2 en oxygène, il y a un moment on va avoir des problèmes. Tout ça c'est très positif. Faut juste lancer ou renforcer la dynamique, mais on sait ce qu'il faut faire. Il y a pas trop de doutes.
Ouais, parce que l'agroforesterie a été validée on ne peut plus par de nombreux rapports, même à l'ONU, etc.
Bien sûr.
Donc c'est quand même ça qui est assez encourageant, et on se dit mais en fait c'est ça qui est dingue, c'est que je crois que c'est le créateur de la permaculture qui dit, je sais plus exactement, mais les problèmes du monde sont un peu plus graves, mais ce qui est le plus grave ou le plus triste, c'est que en fait, les solutions sont un peu plus simples à mettre en place.
Elles existent.
C'est une question de ressources.
Ouais, de ressources, de volonté, parce que c'est... on a une responsabilité, nous, chez Planétique, on sent cette responsabilité que si on arrive à montrer que c'est faisable... Eh bien, c'est la dernière excuse qui manque, en fait. C'est-à-dire que si on peut le faire à grande échelle, on sera obligé de le faire à grande échelle. Donc nous, on sent cette impérieuse nécessité de réussir, parce que les gens pourront plus dire « non, ça marche pas, c'est pas rentable », etc. Une fois qu'on l'aura prouvé à grande échelle, c'est pour ça qu'on veut monter un fonds d'investissement conséquent, c'est de dire que c'est le dernier argument qui manque. C'est faisable à grande échelle.
Ouais, tout à fait.
Et si on l'aura fait sur des centaines de fermes, et on pourrait le faire sur des milliers, en France, en Europe. Donc ceux qui ne veulent pas changer, en fait, se cachent derrière cet argument. Ah, ce sont des doux rêveurs, ce sont des idéalistes. Ah, et s'il y avait plus de gens comme ça, ça serait formidable, mais pas tout de suite. Mais si on prouve, et on va y arriver, ben là, c'est le dernier argument avant le basculement de tout un pan de l'économie, et qui ne concernera pas que l'agriculture, au final, parce que si on a compris ça pour notre alimentation, ben on va pouvoir comprendre ça pour... tous les autres pans de l'économie, qui est la fabrication de nos meubles, de nos maisons, de notre façon d'éduquer, notre assez. On dit souvent, je crois que ça a été prouvé, que l'écriture a été inventée pour l'agriculture. C'est vraiment que l'agriculture, c'est à la base de nos civilisations. Et donc, c'est parce que l'agriculture change que la construction va pouvoir changer, que d'autres secteurs de l'activité vont pouvoir changer, l'éducation. Eh bien, donc on a une très très grosse responsabilité.
Ouais, complètement. Ça me fait penser à un livre qu'on a évoqué dans un des épisodes précédents, où c'est dans le livre Sapiens.
Oui.
En fait, effectivement, l'agriculture, c'est un choix qui a été initié il y a je ne sais plus combien de milliers d'années, 6 ou 8 000, et que de tous nos schémas de société, tout a été décliné par ce choix de dire bon ben voilà, on va aller sur de l'agriculture, on va partir du mode chasseur-cueilleur pour ne plus être nomade justement et s'installer. Et c'est comme ça que toutes les sociétés se sont développées finalement.
Beaucoup de sociétés, pas toutes. Encore une fois, pour avoir un peu travaillé au Congo, alors bien sûr qu'il y a une agriculture au Congo, il y a des terres excellentes. C'est-à-dire que presque, je veux pas dire que vous n'avez pas besoin de faire d'agriculture tellement la nature est luxuriante, mais de dire que c'est un choix de société pour augmenter le produit par travailleur, la production par travailleur. Mais ça pourrait encore se discuter. Est-ce que il y a certains chercheurs qui réfléchissent, qui disent au lieu de travailler sur la production agricole, revenons sur quel type d'alimentation on a besoin, de quel type d'alimentation on a besoin, et après on va voir est-ce qu'on a vraiment besoin de produire autant, est-ce qu'on a besoin de manger autant, notamment de manger autant de viande. Quand on voit des gens qui consacrent beaucoup d'énergie à en perdre en faisant des sports excessifs. Je suis sportif, hein, mais ça faut pas mal interpréter. Mais dans certaines civilisations, courir juste pour perdre de l'énergie, c'est un non-sens. C'est-à-dire que mange moins, tu auras moins d'énergie à défouler. Mange moins gras et tout ça. Et donc, je ne dis rien contre les joggeurs en particulier. Hein, il paraît que c'est génial, il paraît. Hein. Mais il y a toute une réflexion sur l'équilibre de vie. Si on avait cette bonne réflexion, après, on pourrait dire de quelle alimentation on a besoin. Peut-être que chasseur-cueilleur, c'était pas si mal dans une meule. Non, on a vu ça aussi dans des géographies où la nature est violente. On pense à l'Asie du Sud-Est où il y a des moussons, où il faut avoir un type d'agriculture parce que elle ne va pas permettre sinon de se nourrir.
Ouais.
Et dans d'autres géographies, ça tombe tout seul, il n'y a pas besoin de faire autre chose que d'attendre que ça pousse.
Et justement, en prenant un petit peu de recul, on est dans ta 10e année d'entrepreneur.
Ouais.
Et ce qui est assez marquant, c'est que tu axes tous tes projets sur le bien commun, sur cette notion d'avoir un impact positif finalement pour la société, que ce soit les personnes ou l'environnement. Est-ce que... c'est une vision que je partage complètement, que je rejoins à 100%, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui te semble malheureusement trop peu diffusé aujourd'hui?
Ça fait que 37 ans que j'existe, donc je ne sais pas vraiment pour un an. Je pense de tout temps, des gens qui ont cette vision humaniste. Le bien commun, ça n'a pas été inventé au XXe siècle. Alors on dit souvent, les jeunes ont de plus en plus cette préoccupation. Alors bien sûr, on le voit à toute génération. Je veux dire, le meilleur argument en faveur de cette nouvelle vision qu'on partage, c'est que le système actuel ne marche pas. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, même en étant un peu égoïste, on va être obligé de faire la même chose que ce que nous, on veut faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Et ce n'est pas dire tenir un discours catastrophique, c'est très pragmatique. Enfin, ça, Ça marche pas. Si on épuise les sols vont plus produire. Ça marche pas. Donc il faut tous améliorer les choses, ne serait-ce que par pragmatisme. D'ailleurs, moi je me définirais plutôt comme un humaniste, mais un utilitariste, on va dire presque bête et méchant, serait d'accord sur ce qu'il faut faire dans les 50 prochaines années, parce que sinon ça ne marche pas. Donc oui, je pense que cette vision du monde est plus partagée, peut-être qu'elle est plus accessible, plus documentée. Même sur le comment fonctionne l'humain, son cerveau, son bonheur, ça c'est beaucoup plus documenté, donc on peut plus argumenter qu'il faut faire. Après, quand on regarde les philosophies du Moyen-Âge, la philosophie rhénane sur la distance par rapport à la possession, que tout le monde connaît à peu près pour le bouddhisme, hein, il faut être détaché, mais ça existait au Moyen-Âge européen. Il y a des philosophies grecques qui disaient déjà ça à l'époque. Donc cette vision, elle est ancienne, faut pas être prétentieux, mais on a de plus en plus d'éléments de conviction scientifique, technique, et on est la première génération à peut-être pouvoir le mettre en place de façon systémique. Et là aussi, là, c'est super stimulant, c'est-à-dire que on peut le faire, ouais. On peut techniquement réduire la faim dans le monde. On peut avoir un impact sur le climat. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors, il y a toujours les grincheux, mais on peut le faire. Et ça, c'est super. Alors, pour des entrepreneurs, c'est super stimulant. Moi, j'espère qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont être sur ces sujets. Parce que les applis, c'est sympa, mais si on pouvait avoir de plus en plus d'entrepreneurs sur le vivant, qui vont agir sur l'humain, sur le vivant, et pas que sur des projets tech. Alors, il y a des projets tech d'intérêt général, qui donnent des vraies solutions, et ça, c'est génial. Mais il y a beaucoup à faire sur l'agriculture, la sylviculture, l'éducation, la culture, qui ont un impact systémique, l'éducation, c'est sur notre monde. Donc on peut réussir.
Ça ressort un peu de la French Tech, ouvrons un peu les œillères.
Ouais, mais c'est pas dire...
Il ne faut pas être binaire, j'entends. Voilà. Il faut bien sûr développer cet aspect, mais peut-être parler aussi des initiatives qui vont dans le bon sens et qui vont affronter les véritables problématiques sociétales. Quoi.
Oui, et puis c'est plus stimulant... J'ai discuté avec un ami qui est à fond sur l'intelligence artificielle et il me disait, disons, ton discours anti-intelligence, je disais, c'est pas anti-intelligence artificielle, mais quand tout le monde investit sur l'intelligence artificielle, je trouve ça plus intéressant d'investir sur l'intelligence humaine, mieux se connaître, sur la technologie la plus efficace, ça reste encore la vie. Pour produire de l'énergie, si on regarde de A à Z, la technologie la plus efficace, ça reste encore la photosynthèse, c'est la vie. Qui utilise elle aussi le soleil, mais ça reste la vie. L'intelligence la plus développée, ça reste l'intelligence humaine. C'est pas l'intelligence artificielle, qui est plus efficace dans certains cas, mais c'est pas la plus créative. Et donc, d'un point de vue purement là aussi, pragmatique, investir sur les savoirs humains, sur la technologie de la vie, c'est rationnellement la meilleure chose à faire. Et encore la plus stimulante, parce qu'à un moment, l'envie, c'est aussi un moteur très, très utile. J'ai beaucoup plus envie de développer l'intelligence humaine ou d'investir dans l'intelligence humaine et la vie que sur l'intelligence artificielle et les robots. Je parle de mon envie, mais je pense qu'on est plusieurs.
Ouais, et puis en plus, c'est souvent démontré que le bonheur, c'est aussi s'occuper des gens qui nous entourent et pas juste... de machine ou de bonheur personnel, finalement.
Baden Powell, hein, le fondateur du scoutisme, dit ça, la voie du bonheur, c'est de donner celui-ci aux autres. Moi, j'adore cette idée, et elle marche. On le voit, et là aussi, on peut revenir sur l'entreprise Altermassage. On vend du bien-être et du bonheur aux gens. Réduire le stress.
Mais pas uniquement à tes clients, en plus.
Mais pas uniquement aux clients. Aussi aux salariés, parce qu'on est en train d'évaluer notre bonheur au travail, hein, avec la médecine du travail. Donc on essaye d'être aussi exemplaire là-dessus, on ne l'est pas encore. Ça se communique, et c'est un super levier commercial qui fait que du coup on peut continuer cette aventure.
Tu as initié le cercle vertueux, quoi.
Voilà, alors en équipe, c'est le. Le chef d'entreprise est juste là pour donner la pêche, ouais, pour veiller à ce qu'il y ait un bon esprit d'équipe. Mais après, c'est le meilleur chef d'entreprise, c'est celui qui en fait le moins, là, au final.
Le chef d'orchestre.
C'est le chef d'orchestre. Oh, c'est fatigant, chef d'orchestre.
Et justement, tu as évoqué les entrepreneurs qui se lançaient aujourd'hui. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner comme ça aux entrepreneurs, à ceux qui nous écoutent, qui se disent tiens, ça me dit, j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas par quoi commencer ou à quoi faire attention avant d'y aller, quoi.
Le premier conseil, ce serait de nous rejoindre ou en tout cas d'essayer de faire un petit peu comme nous, c'est-à-dire d'investir sur des projets qui, alors qui ont du sens, c'est un peu l'expression tarte à la crème, mais qui vont vraiment réduire un problème social ou environnemental. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui fait que l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est vraiment une aventure difficile. Donc, ce qui peut vous aider à tenir pendant la période difficile, c'est le sens.
Complètement.
Donc, engagez-vous avec nous, à côté de nous, ou pas loin. En tout cas, venez nous voir pour vous lancer.
Donc, rejoignez le Planetic Lab.
Le Planetic Lab qui est l'incubateur, ou monter une boîte ensemble. Le deuxième, ce serait, si vous avez respecté le premier conseil, ayez beaucoup d'humilité. Ne soyez pas donneur de leçons. N'allez pas regarder les autres avec arrogance en disant « moi, je suis dans l'entrepreneuriat social, du coup, je peux faire de l'optimisation fiscale en détournant des fonds d'associations pour... » Non. Essayez de miser sur le commercial, pour trouver une utilité économique et donc une autonomie financière qui vont vous permettre de durer. Ça serait le deuxième, vraiment de miser sur le commercial. Alors, il y a dans certains secteurs, on peut pas. Il y a certains secteurs où on peut pas trouver une utilité économique et ça. Donc, c'est faisable. Si je veux aider des personnes en très, 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 très grande difficulté, je vais monter une assoc. Il faut monter une association et c'est très, très bien. Mais si vous pouvez trouver un modèle économique, c'est génial. Et on peut en discuter. Le troisième, c'est avant de vous lancer, de bien vérifier vos motivations personnelles, votre entourage, de vous entourer. Ça va être difficile et vous allez être... on parle du yo-yo affectif, hein, vous allez avoir 4 mauvaises nouvelles par jour, 3 bonnes nouvelles, et il faudra tenir, donc entourez-vous, essayez de ne pas sacrifier toute votre vie personnelle. C'est pas facile, on voit beaucoup d'entrepreneurs aussi qui vivent des grands moments de solitude, et ça a été un petit peu ça les 3 premières années, on va dire. Mais essayez même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez sûrement 4 à 8 euros pour aller boire une bière avec des copains. Cette bière, c'est un investissement. Alors, l'abus d'alcool nuit à la santé, il faut boire avec modération. Mais je parlais de bière sans alcool. Donc, cette idée, c'est de dire, faites très attention à votre entourage et à bien le ménager. Et faire attention aussi. Pardon, je vais jusqu'au bout, mais... Écoutez les conseils de tout le monde, mais n'en tenez pas toujours compte. C'est-à-dire que les gens qui vont vous dire « c'est génial, ça sert à rien », les gens qui vous disent « ça marchera pas, ça sert à rien », ceux qui vont vous challenger, qui vont vous dire « oui, mais bon », c'est ceux-là que vous devez, avec qui vous devez échanger le plus. Il faut être ouvert aux critiques. Il faut challenger, ne gardez pas votre idée pour vous, personne ne va vous la piquer, elle ne sert à rien. Cette partie réseautage, échange, communautaire, elle est très très importante.
Ouais, j'ajouterais juste même l'idée de préparer le terrain avant même de se lancer, pour voir un peu les fondations, parce qu'effectivement, comme tu le dis bien, il y a un peu les montagnes russes au quotidien. Quoi. Et effectivement, continuer à garder les échanges et effectivement considérer la critique comme une marge de progression. Quoi.
Tout à fait. Et ça, ça revient aussi toujours au deuxième conseil sur l'humilité. Alors, quand on commence en plus à avoir un peu de succès, en fait, l'idéal, c'est bien de galérer pour se dire que c'est pas facile, qu'on a réussi qu'en équipe. Il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que des réussites collectives. Et du coup, ça prépare à garder la tête froide quand la réussite arrive.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est vraiment une chance. Donc, galérer, c'est un bon conseil. C'est une bonne chose.
Même si ce n'est pas évident quand ça arrive. On en sort plus fort, c'est sûr.
Exact. C'est pas très original de le dire, mais c'est très vrai. Et ce serait vous mentir aussi de dire que après 10 ans, ben, c'est facile. Parce qu'il y a de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités, de nouveaux enjeux. C'est toujours difficile, mais si ça peut marcher, c'est vraiment une vie exaltante qui n'oblige pas à sacrifier sa vie personnelle. Et c'est bien sûr ce qui nous est cher. Donc c'est vraiment le Graal, en fait.
Et justement, pour te rejoindre, comment on fait pour contacter Planetic ou même toi directement ?
Alors, moi, je suis très accessible sur LinkedIn. J'essaye de répondre à tous les mails parce que j'ai souffert que ce ne soit pas le cas pour moi, surtout les premières années. Sauf les mails vraiment farfelus. Sinon, il y a Planetic, il y a un site internet planetic.org, il y a info@planetic.org. Et puis après il y a non c'est vraiment l'essentiel mais on est ouvert le Planetic Lab qui est situé dans le Palais Brongniart au 3e étage et aussi un lieu ouvert, on essaie de rencontrer le maximum de gens aussi et d'aider ceux qui sont au tout début de leur projet. Tout démarrage, on filtre pas en fait.
Bon bah génial, bah un grand merci Benjamin pour cet entretien.
Merci Brieux.
Et puis bah à très bientôt.
À très vite.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.